La Première Podcast. Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
Et c'est au théâtre que vous nous emmenez, Caroline, aujourd'hui.
Oui, alors on va aborder une pièce de théâtre dont j'ai trouvé le sujet à la fois passionnant et effrayant. Alors pour ceux de nos auditeurs qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, je me permets de repréciser que l'auteur, Alexis Ragouniou, a pour habitude de travailler sur base de faits historiques qui ont quelque chose à nous apprendre de notre époque. Et ici, en l'occurrence, la pièce Kaiser, c'est l'histoire d'une famille de bouchers qui va mettre en place le travail à la chaîne. On pense souvent que ce sont les ateliers Ford qui ont été précurseurs en la matière. Eh bien, pas du tout. C'est sur des bêtes que cette nouvelle façon de travailler a été testée. Alors pourquoi l'auteur s'est-il intéressé à une famille de bouchers? Qu'a-t-elle à nous apprendre de notre époque? Eh bien, c'est la question que je lui ai posée.
Bon, la découverte de cet univers-là, qui est assez passionnant et terrible en même temps, la découverte de cet univers-là, elle s'est faite à la lecture d'un livre qui s'appelle La Jungle. C'est un roman d'un écrivain qui s'appelle Upton Sinclair, qui a écrit ce roman au début du XXe siècle. Il a été publié en 1905-1906. Et en fait, il décrivait les grands abattoirs de Chicago qui ont été montés, développés à partir des années 1860-1870. Donc il décrivait ça avec une bonne trentaine d'années de recul, du point de vue d'un ouvrier lituanien qui travaillait dans ces abattoirs, et c'était véritablement une vision dantesque, à tel point que les descriptions qui étaient vraiment basées sur une documentation très très sévère des lieux et de l'époque, à tel point que ces descriptions ont amené le passage d'une loi, notamment pour des questions d'hygiène dans les abattoirs. Donc ce roman à l'époque avait fait énormément de bruit. Il m'a passionné à la lecture et j'ai eu envie de reparler de ce sujet du point de vue des patrons, du point de vue des créateurs de ces grands abattoirs-là, mais aussi et surtout parce que ce sujet-là, avec un siècle de décalage, me paraissait encore d'une très grande actualité. Parce qu'en effet, c'est dans ces grands abattoirs que sont nés le travail à la chaîne, l'organisation poste par poste du travail. Donc c'est toute une époque qui est née là. Et en même temps, avec un siècle de décalage, j'avais aussi la vision de ce qui s'était passé par la suite. Donc d'un côté, le développement de la société de consommation, de la consommation de masse, mais aussi un autre virage pris par nos sociétés qui est celui du génocide. Mon histoire, ma pièce, se termine en 1915, c'est-à-dire l'année du génocide arménien, qu'on a appelé le premier génocide du XXe siècle. Évidemment, ensuite, il y a le génocide juif et bien d'autres tragédies qui ont émaillé le XXe siècle. Et finalement, j'ai eu le sentiment vraiment très fort, je crois que j'ai jamais eu ce sentiment-là sur d'autres pièces, sur d'autres sujets, sur d'autres textes. J'ai vraiment eu le sentiment que à la fin du 19e siècle, à Chicago, était née une partie du 20e siècle. C'est-à-dire que quelque part, à partir des années 1870, dans ces grands abattoirs-là, il y avait toute une partie de l'histoire à venir qui était déjà en maturation.
Alors cette pièce, moi je n'y ai pas eu accès, hein, je n'ai pas pu la lire. En tant que telle, elle raconte quoi? Le destin d'abord de cette petite famille qui passe de la petite boucherie familiale à ces grands abattoirs?
Oui, c'est une pièce qui est à la fois très documentée, hein. J'ai essayé vraiment d'avoir cette rigueur-là. Et en même temps, les deux personnages principaux sont des personnages fictifs. J'ai créé deux frères, Joseph et Hermann Kaiser, l'aîné Joseph, qui a été soldat pendant la guerre civile, pendant la guerre de sécession, et qui, au retour des combats, retrouve son petit frère dans la minuscule boucherie familiale pour lui dire « Petit frère, je viens te chercher, on part à Chicago parce que j'ai une grande vision ». Cette vision-là qu'il a en tête, c'est celle de ces grands abattoirs qu'il va développer, qui ne sont pas encore nés au début de la pièce. Et on le comprend au fur et à mesure de la pièce, mais c'est tout à fait central, cette vision dantesque, grandiose et en même temps terrible et sanglante. Évidemment, il l'a eu pendant qu'il était soldat, il l'a eu pendant la guerre.
Ouais. Comment ils s'organisent alors chez eux, ce fameux travail à la chaîne?
Alors, dans la réalité des faits, et c'est ce que j'ai tout à fait décrit dans la pièce, c'est en effet à Chicago, à partir des années 1870-1875, qu'on a commencé à séparer le travail par poste, c'est-à-dire que l'animal entrait dans l'usine, hein, dans l'abattoir, ouais. Que ce soit une vache, un cochon, un mouton, on le suspendait par les pattes à un rail qui était suspendu au plafond. et qui courait en pente douce à travers toute l'usine. Et donc c'était l'animal qui se déplaçait suspendu à ce chariot, et des ouvriers spécialisés, eux, restaient à leur poste et avaient chacun une tâche très spécifique qui ne durait que quelques secondes à accomplir. Mmh. Et donc, à travers le cheminement de ce rail dans toute l'usine, c'était le travail de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes qui étaient mis à l'épreuve, du moment où finalement on faisait entrer l'animal et où on le tuait, jusqu'au moment, les diverses étapes du découpage. Et ensuite, à sa sortie de l'usine, si je puis dire, l'animal avait été transformé en une multitude de produits, donc pas uniquement en un quartier de viande, mais finalement, l'une des nouveautés aussi terribles de ces abattoirs-là, c'est qu'on ne perdait rien. C'est-à-dire que l'animal ressortait aussi sous forme de bouton, la corne, ressortait aussi sous forme de corde à violon, sous forme de brosse à dents, les poils du cochon étaient servis à fabriquer des brosses à dents. Donc finalement, il y a vraiment quelque chose de dantesque dans cet univers-là, aussi parce que cet animal-là, ensuite, ce qui sortait de lui au sortir de l'usine, était véritablement utilisé dans tous les aspects de la vie quotidienne.
Ouais, et il y a, vous parlez de produits dérivés, des boutons, des choses comme
Exactement.
Ça, aussi des sous-produits, parce que ça va partir autant sous forme de viande fraîche, dans des fameux wagons frigorifiques vont inventer aussi, que sous forme de conserves, etc. Est-ce que la malbouffe, tout ça, on peut dire que ça commence aussi à ce moment-là, parce qu'on se doute que les parties les moins belles aussi sont conditionnées dans des sous-produits?
Oui, alors c'est très présent dans le roman La Jungle dont je parlais au début de notre entretien. On utilisait vraiment tout, les meilleurs comme les pires morceaux de la bête. Donc, est-ce que la malbouffe est née à ce moment-là? En tout cas, jusque-là, la viande avait été clairement un produit de luxe, un produit cher. Il faut savoir que jusqu'à la naissance de ces abattoirs de Chicago, on acheminait les animaux encore vivants sur les marchés de consommation, c'est-à-dire essentiellement dans les grandes villes de l'Est. À partir du développement de ces abattoirs à Chicago, c'est-à-dire dans ce nœud ferroviaire tout à fait central aux États-Unis, eh bien, à partir de ce moment-là, on prépare, on découpe l'animal sur place et ensuite, justement grâce à l'invention des wagons réfrigérés, on diffuse la viande et les produits dérivés, comme vous le disiez, on diffuse tous ces produits-là vers l'Est parce que c'était là que se trouvaient essentiellement les marchés.
Ouais. Bon.
Le fait de tout centraliser en termes d'abattage, de préparation de la viande, a permis d'augmenter considérablement les volumes, donc de faire baisser les prix. Donc c'est aussi à partir de ce moment-là que la viande est devenue un produit plus accessible à tous. Ça, on pourrait penser que c'est une bonne chose, en effet. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a tout un tas de produits dérivés qui ont été créés et qui, je crois, n'étaient pas d'une très grande qualité. Il y a eu une législation, mais qui est venue ensuite pour contrôler toutes les questions d'hygiène à l'intérieur des abattoirs. Mais ça s'est fait à partir des années 1900, 1905, 1910, 1915. Encore une fois, les abattoirs ont véritablement démarré au milieu des années 1860.
Mmh.
Donc il y a quand même eu une longue période où il n'y avait absolument aucun contrôle. Et même à partir du moment où ensuite il y a eu une législation, c'est-à-dire des inspections par des gens qui étaient employés par le gouvernement fédéral, les contrôles étaient encore soumis, c'était assez souple quand même. Je pense que, si j'ai bien compris certains livres d'histoire, on pouvait glisser un billet dans la poche de l'inspecteur et certaines vaches malades passaient tout à fait des tests.
Alexis Ragugno, auteur de la pièce Kaiser dans la création, a lieu ce soir, Caroline, au Centre culturel Ducle à 20h15.
Oui Laurent, et je signale au passage qu'il reste quelques places, c'est le moment ou jamais de les réserver. On va revenir, si vous le permettez, au travail à la chaîne. L'histoire a retenu que cette nouvelle façon d'organiser le travail avait été inaugurée dans les usines Ford, juste avant la Première Guerre mondiale. Or, on l'a dit, tout a commencé dans des abattoirs et Henry Ford s'en est d'ailleurs inspiré, lui qui aurait dit, je cite, « l'idée générale de la chaîne m'est venue en regardant les bennes utilisées dans les abattoirs pour parer les bœufs ». Mais est-ce vraiment un hasard si l'histoire a retenu une usine automobile plutôt qu'un abattoir comme vecteur de progrès? On va y revenir dans un instant avec Alexis Ragugno, juste après ce bref extrait des temps modernes de Charlie Chaplin, c'était en 1936.
Thank you.
Évidemment, il y a quelque chose de plus propre.
Oui,
en tout cas, c'est très clair que l'histoire et souvent les historiens ont retenu en effet que le travail à la chaîne était véritablement né à Détroit dans les usines Ford en 1913, c'est-à-dire au moment de la production de la fameuse Ford T. Or, en réalité, et Henry Ford le dit dans ses mémoires, il a visité les abattoirs de Chicago quand il était tout jeune. Mmh. Il en a été très impressionné et il a notamment retenu ce concept du chariot qui glissait sur un rail avec la bête qui passait de poste en poste. Il a retenu ça et d'une usine finalement de dépeçage, c'est-à-dire d'une usine de désassemblage, il a fait une usine d'assemblage. La véritable naissance du travail à la chaîne et de bien d'autres choses s'est faite en réalité à Chicago. Et l'aspect sanglant de cette naissance-là, il faut pas l'oublier, justement. Parce que derrière, il y a le XXe siècle, avec le développement de la consommation de masse, mais aussi des choses dont on parlait tout à l'heure, dont on s'est inspiré. On s'est inspiré véritablement des abattoirs de Chicago, aussi pour concevoir la solution finale.
Oui, c'est ça. Justement, dans votre chef, choisir un abattoir plutôt qu'une usine automobile aussi, pour parler des prémices de la société du XXe siècle, c'est très parlant. Parce que dans cette chaire, on l'évoquait, vous voyez l'origine de la consommation de masse, mais aussi, comme vous le disiez, des massacres de masse. C'est quand même très fort et violent comme affirmation. Alors, quel lien est-ce que vous faites entre cet abattage et les génocides du XXe siècle ?
Bon, c'est pas uniquement moi qui l'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a d'autres écrivains bien avant, dès les années 50 en fait, qui ont parlé de ce lien-là, en particulier Isaac Bashevis Singer dès les années 1950, qui lui faisait une sorte d'aller-retour, c'est-à-dire qu'il faisait le lien entre les abattoirs de Chicago et le génocide juif. Et ensuite, il y avait un mouvement de retour, c'est-à-dire qu'il disait que les animaux vivaient à travers les hommes un éternel Treblinka. C'est une formule qu'on a pu lui reprocher, mais il y a d'autres écrivains ensuite qui ont un peu fait le lien. On peut aussi citer John Maxwell Coetzee ou d'autres. Je crois véritablement que, d'abord, l'idée même de massacre de masse est née à Chicago. À partir du moment où on admet cette idée-là, qu'en une année, par le biais de la mécanisation et des techniques industrielles, on peut abattre 10 millions, 15 millions d'êtres vivants, c'est-à-dire des vaches, des cochons, etc. À partir du moment où cette idée-là est née, il n'y a qu'un pas ensuite pour l'appliquer à des humains. Ou en tout cas, quand il y a une volonté politique suffisamment folle pour ensuite l'appliquer à des humains, l'idée et la technique sont déjà là et ont été éprouvées depuis presque un siècle, enfin entre les années 1860 et ensuite les années 1940, il y a 70 ou 80 ans. Donc en tout cas, ce que je tiens aussi à préciser, c'est que le développement des techniques d'extermination nazie se sont faits dans l'aspiration assez concrète des abattoirs de Chicago. On sait que des textes ont beaucoup circulé, on sait que ceux qui ont conçu la solution finale ont lu ces textes. Ce qui est curieux et cynique d'ailleurs, c'est que Henry Ford, on en parlait tout à l'heure, a très bien pu être le lien entre les abattoirs de Chicago et la solution finale, dans la mesure où Henry Ford était un antisémite notoire. Dans les années 1920 notamment, il a financé un journal antisémite qui vraiment a déversé des torrents d'horreur. Lui étant admirateur de ces techniques qui avaient été développées à Chicago, on peut penser aussi que le mélange entre discours antisémite et admiration des abattoirs de Chicago a pu ensuite aboutir dans les années 1930 à la conception, à l'élaboration complètement folle de la solution finale.
Mmh. Le titre de la pièce aussi, Kaiser, on pense immédiatement dictateur sanguinaire, c'était le surnom d'Hitler.
Oui.
C'était aussi pour nous mettre la puce à l'oreille, parce qu'en voyant le titre, a priori, on ne s'attend pas du tout à ce qu'on nous parle des abattoirs de Chicago.
Oui. Bon, il y avait ce côté roi de la viande que je voulais souligner, évidemment. Mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur de théâtre, je ne suis pas historien, je m'attache essentiellement à raconter l'histoire de personnages, je m'intéresse à la question humaine véritablement. Donc j'ai voulu raconter l'histoire de ces deux frères, Joseph et Hermann, qui au début de la pièce sont extrêmement proches et qui ensuite, au fur et à mesure du développement et du gigantisme de ces abattoirs, vont tous les deux sombrer dans une forme de folie, comme s'ils étaient véritablement contaminés par ces flots de sang qui coulent dans leur usine. En particulier le frère aîné, qui est vraiment dans une complicité, dans un amour total de son frère au début. Il vient le chercher parce qu'il sent qu'il ne peut pas construire cette grande vision de l'abattoir sans son petit frère. Et finalement, les années, puisque ma pièce se passe sur 10, 20 ou 30 ans, les années vont les séparer. Et finalement, moi j'ai montré le destin individuel d'un homme qui avait cette vision grandiose, on peut utiliser le mot au début, et qui finalement a sombré ensuite dans une espèce de folie sanguinaire.
Alexis Ragugno, donc Caroline, à propos de cette pièce Kaiser, à voir ce soir à Uccle, au Centre culturel.
Oui Laurent, c'est une pièce lourde de sens qui prête à réfléchir, et c'est pas pour rien qu'elle a fait l'objet de plusieurs leçons spectacles dans le cadre de l'Université populaire du théâtre, une université itinérante, ouverte à tous, dans laquelle aucun diplôme n'est délivré, mais où l'on a l'occasion de débattre. L'auteur a lui-même participé à plusieurs de ces échanges. Demain, ce ne sera plus une lecture, mais une véritable représentation. Est-ce que dans ce cadre-là, un échange est également prévu avec le public? C'est ce que je lui ai demandé.
C'est la question justement. Je ne sais pas ce que Jean-Claude Idée, le metteur en scène, a prévu avant ou après la pièce. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a toujours été, depuis la création des universités populaires du théâtre, il a été dans une logique de débat, de discussion. Donc, lui, il souhaite travailler sur Kaiser depuis bientôt 2 ans. Hein. Il a commencé à faire des lectures publiques de Kaiser il y a 2 ans. Il en a fait à Paris, à Bruxelles, à Avignon encore l'été dernier. Et à chaque fois, moi, je souhaitais être présent. J'y étais avec beaucoup de plaisir parce que il y avait toujours des réactions après les lectures. Et il y avait un débat toujours très intéressant qui démarrait. Donc là, on verra après la pièce, peut-être qu'il y aura un petit temps de prévu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est précisément le but de la création d'une pièce aussi. Hein. C'est de déclencher des questionnements, qu'il y ait débat après ou pas, je ne sais pas. Mais c'est véritablement le but du théâtre. C'est le but du spectacle vivant.
Ouais. Est-ce que vous faites vraiment le lien dans votre texte? Est-ce que vous exprimez ce lien entre abattoir, massacre humain, etc.? Est-ce que vous le faites nommément, j'ai envie de dire?
Alors, pas nommément, je le suggère, pour une raison assez simple, je crois, c'est que je n'ai pas toutes les réponses. Je pose des questions, je les partage, et surtout j'étudie les implications de cette pensée-là à travers le parcours de mes personnages. Qu'est-ce qui fait que, à partir de la création d'un abattoir mécanisé, c'est-à-dire d'une forme de prouesse technique, qu'est-ce qui fait qu'ensuite on bascule dans une pensée qui consiste à dire qu'est-ce qui pourrait se passer si on appliquait ces techniques d'abattage aux êtres humains. Il se trouve que c'est arrivé par la suite, mais dans ma pièce, je n'en parle pas très, très concrètement, je ne parle pas de la solution finale. Par contre, il y a le fait que Joseph Kaiser, donc le concepteur des abattoirs, soit un ancien soldat, et donc il y a quand même un moment dans la pièce où il dit qu'est-ce qui se passerait si on appliquait les techniques que j'ai mises au point aux êtres humains. C'est une question qu'il pose, parce que lui-même se la pose. Dans sa propre folie, il a cette forme d'honnêteté de se dire « Nous ne sommes qu'à un pas de l'horreur absolue. »
Avec ici des notes d'un chant en hébreu, c'est une musique qui termine le film de Spielberg, La liste de Schindler.
Oui. Caroline. C'est Yerushalayim Shel Zahav. Déjà mille excuses pour ma prononciation, puisqu'il était aussi question de travail à la chaîne dans l'usine d'Oscar Schindler. Pour en revenir à notre invité en quelques mots, Alexis Ragugno, je vous rappelle que sa pièce Kaiser est créée ce soir au Centre culturel d'Uccle à 20h15. Jean-Claude Idée signe la mise en scène. Débat ou pas, on ne le sait pas. En tout cas, l'auteur est là et vous pourrez lui poser vos questions si vous le souhaitez.